Radio Kapi. Oh, Kapi.
Et voici les principales articulations de votre journal. Il faudrait une consultation populaire préalable pour une perception réelle des résultats de l'état des sièges dans les provinces du Nord, Kivu et Ituri avant une éventuelle prolongation. C'est la recommandation faite par le député provincial Jean-Paul Lumbulumbu. Conditions de vie alarmantes des enseignants de la province du Sud Kivu. Les députés nationaux et sénateurs de cette province sont adressés au Premier ministre pour dénoncer cette situation et d'autres problèmes qui minent les secteurs de l'éducation au Sud Kivu. À Komanda, 75 km de Bunia, vivent dans des conditions difficiles dans ces centres de négoces. Une situation qui préoccupe les Nations Unies. Nous sommes avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des affaires humanitaires. Il est l'invité de votre journal. Bonjour à tous et ce journal est mis en onde par Jean-Noël Mokondo. État de siège dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri. Le député Jean-Effectif fait des soins d'évaluation par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Tout comme l'audition du ministre de la Défense, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des gouverneurs du Nord Kivu et de l'Ituri par cette commission. L'élu des libéraux recommande en revanche une consultation populaire préalable pour une perception réelle des résultats de l'édit au micro de Denise Lukesso.
Nous sollicitons que, avant que la Commission Défense et Sécurité ne dépose son rapport pour être examiné à la plénière en vue d'une éventuelle prolongation encore de l'état de siège, qu'une consultation populaire soit organisée dans l'Ituri et du Nord Kivu, avec notamment les députés provinciaux de ces députés, les mouvements citoyens, les leaders religieux, les leaders coutumiers, la FEC, les femmes, pour avoir la perception réelle de l'efficacité de l'état de siège, cette population qui est censée être commission de sécurité avant de déposer son rapport à la plénière, de procéder à cette consultation populaire qui ne peut prendre qu'une semaine, et cette consultation populaire permettra à la plénière d'avoir deux sons de cloche par rapport à ce qui se passe sur terrain, parce que les déclarations qui ont été faites à Kinshasa ne corroborent pas avec la réalité sur terrain.
Rappelons que le député Lumbulumbu a rencontré la semaine dernière à Kinshasa les présidents de deux chambres du Parlement, ainsi que quelques membres de leur donner une explication sur ce qu'ils pensent être les limites de l'état des sièges. En Ituri, des voix s'élèvent pour demander aux responsables du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire d'accélérer les processus pour l'instauration d'une paix durable dans cette province. Selon les acteurs de la société civile, plusieurs armes, mais ces processus se traînent, ce qui les oblige à commettre des exactions contre les civils pour leur survie. Isaac Remoyope.
La société civile de Mungwalu indique que la nomination du coordonnateur national du programme DDRCS intervient plus de 10 mois après l'acte d'engagement par les différentes factions de la milice Codeco pour adhérer au processus de paix en Ituri. Pendant ce temps, ce groupe armé a intensifié les exactions contre la population. Son président Chérubin Kukundilawa indique que le bureau national des DDRCS doit accélérer la mise en place de cette structure pour que tous les groupes armés déposent les armes.
Ces acteurs, ils viennent d'être nommés. Ils vont chercher d'abord organiser les bureaux de Kinshasa ou les bureaux des provinces concernées pour le lancement de l'opération, que ces délais soient écourtés pour que le temps que les choses vont traîner, les exactions vont continuer.
Pour la société civile du territoire d'Irumu, les leaders des différentes milices doivent saisir cette opportunité pour déposer les armes et contribuer au développement de cette province qui a tant souffert des affres de la guerre. Son président Gili Gotabo plaide également pour l'implication des différentes communautés pour sensibiliser leurs frères à déposer les armes.
Je demanderai à ce peuple ituriens de manifester aussi la bonne volonté à déposant les armes, mais aussi pour la population, à parler à ses frères de cesser avec les actes.
FC ADF et plusieurs groupuscules des miliciens Mai Mai, Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, des réactions à la mise en place de la commission paritaire hier à l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire MSG7 d'Ensemble pour la République s'oppose au mode de désignation des membres de cet groupe parlementaire de désigner leurs délégués à la commission. De ce fait, le MSG7 décide de n'envoyer personne pour siéger au sein de la commission faute de respect des procédures. Jean-Claude Kibala tient le président de l'Assemblée nationale responsable de tout obstacle à la tenue dans les délais des prochaines élections. On l'écoute dans cet extrait qui nous propose. Billy Van Lutumba.
Bonson n'est pas président du groupe parlementaire du MSGP, il n'est pas le président du groupe parlementaire CACH, il n'est pas le président du groupe parlementaire APDC, il n'est pas le président du groupe parlementaire ANK. Lui ne peut pas se mettre à la place des présidents de ces groupes parlementaires et décider à leur place, même s'il est le président de l'Assemblée. Le rôle qu'on lui a donné dans la loi qui a été votée, c'est de faire l'arbitrage. C'est-à-dire que quand nous nous entendons pas, nous n'arrivons pas à trouver une solution, il peut faire l'arbitrage et non d'influencer la candidature de telle ou telle autre personne. De quel droit lui peut décider de dire, bon, vous ensemble, vous aurez un tel autre poste. De quel droit les autres vont avoir tel autre poste ou tel autre poste. Il n'y a pas de raison de violer les règles. Les règles sont claires. On dit que c'est les forces politiques dans l'Assemblée qui désignent les membres. Nous n'envoyerons personne dans la commission parce que cette commission n'a pas été établie selon les normes. Les membres de la commission ne peuvent pas être désignés par le président. C'est le groupe parlementaire qui envoie les membres de la commission. Deuxièmement, aussi longtemps que nous n'avons pas encore envoyé un candidat là-bas, en tant qu'ensemble, les confessions religieuses ne sont pas mises d'accord. L'opposition n'a pas envoyé. La commission va siéger pourquoi? C'est une commission de distraction. Ou bien ils veulent faire des choses en partage en cause.
Les caucus des députés nationaux et sénateurs du Sud-Kivu s'adressent au Premier ministre et dénoncent une situation alarmante des enseignants de la province du Sud-Kivu. C'était à l'issue d'un plaidoyer mené à Kinshasa par une délégation de députés provinciaux, membres du gouvernement provincial et les syndicats des enseignants du Sud-Kivu. Leurs échanges ont tourné sur ce problème qui mine le secteur de l'éducation dans la province du Sud-Kivu. Jean-Baptiste Tonga nous fait le point.
Les caucus des députés nationaux et sénateurs élus du Sud-Kivu ont retenu plusieurs constats, lesquels contenus dans la lettre adressée au Premier ministre. C'est entre autres que les zones salariales ont créé des grands écarts très profonds dans le traitement des enseignants où ceux des territoires reçoivent 180 000 francs congolais, ceux des villes de Kinshasa et Lubumbashi gagnent 380 000 francs congolais. Le comité provincial de la synergie des syndicats des enseignants du Sud-Kivu est arrivé à une conclusion par rapport à cette situation. Monsieur Jacques Chirimwami, secrétaire provincial du SINECAT.
Nous convenons que nous allons organiser les examens. Nous allons même compléter les bulletins. Nous allons laisser les documents au directeur et même les proclamer. La gratuité est non négociable. Et dans notre secteur en particulier, est non négociable. Il faut qu'on paye l'enseignant un salaire décent.
Notons que les caucus des députés nationaux et des sénateurs, les députés provinciaux, les délégués syndicaux, la notabilité et la population du Sud-Kivu en général attendent du Premier ministre des solutions pragmatiques à tous ces problèmes qui minent le secteur de l'éducation en province du Sud-Kivu pour une rentrée scolaire 2021-2022 apaisée. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Okapi.
Annulation à Zongo dans le Sud-Ubangi des épreuves de la récente session du test national de fin d'études primaires. C'est la décision du directeur provincial de l'EPST Sud-Ubangi 1. Elle est consécutive à la fraude massive constatée lors de la passation de ces épreuves certificatives dans les quatre centres de la ville. Les finalistes du primaire ont dû reprendre ces épreuves de deux jours qui prennent fin ce vendredi. D'ores et déjà, les enquêtes sont en cours et les auteurs de cette fuite des examens seront sanctionnés. On écoute les directeurs provinciaux de l'EPST Sud-Ubangi 1, Raphaël Sandoku, qui est joint au téléphone par Paul Richard Malengela.
Oui, nous avons annulé les épreuves, c'est parce qu'il y a une fuite, une tricherie à grande échelle pour les quatre centres de la ville de Zongo. Comme nous avons repris l'examen commencé hier, et ça se termine aujourd'hui. Nous avons pris la charge au niveau local, par le même questionnaire de cette année, on a pris la question de l'année dernière. Nous avons informé suffisamment les parents et nous avons tenu une réunion du comité provincial et nous avons constaté le fait. Et puis on a réuni tous les directeurs de ces quatre centres-là. Tout le monde a été d'accord. Maintenant, je crois que les enfants, ce que nous sommes pas au centre, nous allons terminer ça aujourd'hui. C'est ce que nous avons pu faire.
Et est-ce qu'il est aussi prévu des sanctions à l'encontre de ceux qui ont orchestré cette tricherie?
Les investigations sont en train de se faire maintenant. À l'année avec nos inspecteurs, tout ça. Et nous avons des pistes, les responsables seront réellement puis. Cette situation, je crois que ça a surpris presque tout le monde. Je crois que ça a été une correction pour tout le monde.
Dans la province du Maïndombé, tous les bâtiments de l'école primaire Nkondé, situés au village du même nom, dans le territoire du Nongo, ont été emportés par un vent violent qui avait soufflé sur ses coins le samedi dernier. Du coup, toutes les activités de cette école sont bloquées et plus de 200 élèves ne savent plus continuer à présenter les examens de fin d'année scolaire en cours faute de salles de classe. Le directeur de cette école, Rojembo et Bengo, sollicite l'assistance des autorités sécurité, tant nationale que provinciale, pour la reconstruction de l'école ainsi que du poste de santé Condé qui a été aussi emporté. Il est au micro de Irène Boma.
C'est justement en Condé. Hier, il y a eu l'orage et une grande pluie qui s'est abattue à ce village-là, qui a fait écrouler presque 23 maisons, une école et un poste de santé. Nous demandons aux autorités, tant nationales que provinciales, de pouvoir penser à cette population sinistrée et surtout penser à cette petite école de l'Épin Condé et au poste de santé de Condé. Surtout pour l'école, c'est un grand blocage parce que ces enfants aujourd'hui ne peuvent pas passer les examens. Ils sont à l'extérieur et c'est difficile de pouvoir continuer avec les examens. Ils sont sans examen parce qu'il n'y a pas de maison à abriter. Et alors, ils demandent à l'autorité nationale, tout comme à l'autorité provinciale, de pouvoir penser à eux. Et surtout à reconstruire l'école et Épin Condé et aussi à reconstruire les postes de santé qui est aussi.
À son troisième jour des visites en RDC, la directrice régionale du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD encourage la promotion des initiatives sur l'innovation et l'entrepreneuriat de jeunes Congolais pour le développement de la RDC. C'est tout le sens qu'il faut donner à l'entrevue que Madame Haouna Eziakenoa a eue avec l'un d'eux, le jeune artiste et musicien Innocent Baloumé, c'est jeudi au siège du PNUD à Kinshasa. Baloumé fait preuve d'innovation dans le domaine musical et il est l'initiateur d'une fondation qui porte son nom. On écoute Innocent Baloumé dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Koko.
Et j'ai suivi tous les discours de la représentante de la PNUD. Elle a beaucoup insisté sur l'essence des responsabilités des jeunes, que nous sommes capables de faire quelque chose. Nous devons juste aimer notre pays et se rendre compte que les solutions ne viendront pas de l'extérieur. Nous pouvons avoir de l'aide, mais nous devons tout commencer à partir d'ici parce que nous sommes forts, intelligents et nous avons aussi les pouvoirs. Donc il faut croire en nous. Et donc je loue cette idée en tout cas de nous donner la parole parce que c'est ce qui nous manque ici. Nous avons toujours ce complexe de négliger l'apport de la jeunesse. Donc c'est juste l'essence aussi d'innovation. Parce que vous savez, quand on vient chaque fois avec les mêmes idées, sans créativité, sans aucun effort de créer quelque chose de nouveau, on n'a pas chaque fois aussi la chance d'être écouté.
Au Maniema, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée hier le 12 août, le Conseil provincial de la jeunesse du Maniema appelle les autorités provinciales à transformer le système alimentaire en prenant en compte toutes les innovations des jeunes dans les domaines agricoles afin d'assurer la santé de toute la population. Dans un message lu devant la presse, la jeunesse du Maniema rassure d'innover dans le secteur agricole pour la production alimentaire. Trésor Lupi Kimanga, vice-président d'intérim en charge des finances revient sur ces messages dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
Cette année, dans un contexte sanitaire difficile caractérisé par l'apparition de la pandémie à coronavirus, la Journée internationale de la jeunesse célèbre autour du thème « Transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète ». Ce thème appelle les dirigeants du monde entier à transformer les systèmes alimentaires en prenant en compte toutes les innovations des domaines agricoles afin d'assurer la santé de l'homme et la santé de toute la planète. Au Maniema, la jeunesse ne cesse et ne cessera pas d'innover dans tous les secteurs, surtout les secteurs agricoles, pour la production alimentaire de qualité et respectueuse de l'environnement. Cette jeunesse sollicite l'appui et l'accompagnement du gouvernement provincial afin de reconnaître la part des jeunes selon la charte africaine et les lois du pays. C'est ainsi qu'un cahier des charges sera déposé sur la table du gouverneur quant à ce. Enfin, nous lançons les activités du mois de la jeunesse et convions toute la jeunesse du Maniema à participer au congrès de la paix et de la reconstruction de notre province qui se tiendra dans 2 semaines.
Actualité internationale.
Vif et moi dans le rang du collectif des intellectuels chrétiens du Mali pour la cohésion sociale, la bonne gouvernance et la paix. Ses membres ont condamné jeudi 12 août le récent propos tenu par le ministre malien des Affaires religieuses et du culte, Mahamadou Kone. Selon le collectif, lors d'une rencontre publique sur la situation sociopolitique du Mali, ce dernier a qualifié le pays de république islamique et laissé entendre que tout projet de loi qui ne serait pas en conformité avec le principe de l'islam pourrait être rejeté. La marine sud-coréenne a réceptionné vendredi 13 août son premier sous-marin capable de transporter des missiles balistiques destinés à contrer la menace des sous-marins de Corée du Nord dotés de l'arme nucléaire.
L'invité.
C'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC chargé des affaires humanitaires, David McLachlan-Carr, s'est dit préoccupé par la situation humanitaire au sud du territoire du Rumu. 2008, les exactions des présumés rebelles des ADEF à Komanda, à 75 km de Bunia, vivent dans des conditions très difficiles dans ces centres de négoce. Il promet l'implication des Nations Unies pour soulager les souffrances de ces vulnérables. On l'écoute, il s'entretient avec Ezekiel Mousalia.
David McLachlan-Carr, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'une mission à Komanda, dans le sud du territoire d'Irumu. Quel est le constat que vous aviez fait sur place?
Nous sommes allés pour évaluer la situation humanitaire. Qui a eu l'opportunité d'avoir comme des réunions avec les autorités locaux, mais aussi avec les personnes déplacées par les conflits et par la violence dans le sud d'Irumu. On a constaté qu'il y a beaucoup de besoins de l'aide humanitaire, surtout des nourritures, des hébergements, aussi de l'eau potable, et bon, de tout, un peu de tout. Ce sont des personnes qui sont en certains cas traumatisées, qui sont arrivées sans rien. Alors, nous ensemble, les Nations Unies, nous allons élaborer un plan d'assistance pour fournir de l'aide à ces personnes déplacées dans la zone. Mais c'était une mission assez intéressante, aussi touchante, parce que on a écouté aussi les histoires des personnes affectées, et il y a des histoires très tristes. La chose positive, à mon avis, c'est les communautés hôtes qui reçoivent ces gens sans problème. Ils sont très accueillants. Les personnes se trouvent maintenant dans quelques églises, mais aussi comme dans les maisons de la communauté haute. Et c'est une bonne chose. Ça démontre toujours comment la générosité des Congolais. C'est une situation assez difficile.
Aujourd'hui, l'Ituri est à feu et à sang et le besoin humanitaire est vraiment urgent. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour soulager les souffrances de cette population?
Bon, les autorités locales sont en train de fournir un certain degré d'assistance, mais bien sûr, nous devons penser aussi d'aider les communautés hôtes. Hein? Ça, c'est une chose bien importante. Je crois que les besoins prioritaires, maintenant, c'est hébergement, les bâches, aussi nourriture, mais aussi comme des semis et des outils pour que ces populations puissent cultiver la terre pour se alimenter. Avec ça, je crois que nous devons aussi négocier avec les chefs coutumiers, avec les villageois aussi, si on peut organiser l'allocation de terres à ces gens pour qu'ils puissent se nourrir. C'est une priorité, mais l'eau potable aussi, c'est une priorité. Nous devons aussi éviter la possibilité d'avoir comme des maladies hydriques. Il y a toujours, quand il y a une concentration des gens dans des villages, la possibilité d'avoir comme une flambée de choléra, des autres maladies hydriques. On va faire aussi comme d'assistance médicale pour ces personnes, et aussi il faut penser pour l'éducation, parce que beaucoup de ces gens occupent maintenant les écoles.
Alors par rapport aux défis sécuritaires, il y a plusieurs sites, même ici à Bunia, qui hébergent beaucoup de déplacés. Quelle est la préoccupation des Nations Unies pour apporter un soutien à ces populations longtemps meurtries par l'activisme des groupes armés?
Bon, la seule solution, c'est d'avoir une paix durable et des solutions politiques pour... Et ça, c'est bien sûr, je crois que les autorités militaires aussi sont en train aussi de créer des conditions pour que ces gens puissent retourner chez eux. Les gens veulent retourner chez eux. Ça, c'était le message clé. Ils ne veulent pas comme rester dans le village et tout ça. Ils veulent retourner chez eux. Alors, et je crois que avec la MONUSCO et les autorités, il faut trouver des solutions pacifiques pour que les gens puisse retourner. Nous sommes, honnêtement, notre présence c'est assez faible dans les Touris pour raison de l'insécurité, pour raison du manque de financement. Alors, on va faire une allocation spéciale à d'urgence pour que nous puissions déployer des équipes aussi sur le terrain pour aider les gens et bien sûr travailler aussi avec les ONG nationales et locales qui sont une vraie aide à cette population.
David Maclakankar, merci.
Merci à Radio Okapi.